tous les marchés ne se saturent pas de la même façon. Celui qui... voilà, déjà un exposé très riche. On garde en mémoire toutes nos questions pour que la discussion puisse prendre l'intégralité des interventions en compte. Et donc, François Leclerc va nous faire un exposé sans les chiffres, a-t-il dit. François.
L'exposé s'appelle comme. Vous m'entendez pas, je ne sais pas si vous m'entendez bien.
Oui, on peut l'attacher.
J'ai quoi un peu déterminé quand vous m'appelez. Et donc, il faut que j'insiste. L'exposé, il faut exposer sa grande déperdition. Et vous savez qu'il y a des grands principes des conférenciers, on vous apprend ça. C'est si vous avez choisi le titre de la conférence justifié, si les organisateurs l'ont choisi à votre place, vous le démolissez. J'ai choisi le texte, le titre, et donc que je vais le justifier. D'une manière un peu, comment dirais-je, paradoxale, parce que en réalité, ce qui vient tout de suite à l'idée quand on parle de la situation actuelle, que nous vivons tous les jours, c'est plutôt sur la réédition de la Grande Dépression. Peut-être que la première, c'est de 1929, a été qualifiée, mais ça peut être la confusion parce qu'on pourrait croire qu'on se fait la répétition de la même crise, ce qui n'est pas le cas. Et donc, le Financial Times, le journal révolutionnaire bien connu, a un blog qui s'appelle Alphaville. Ce blog est un endroit où des financiers très très pointus s'expriment et ça vaut le coup de le lire, même si ça donne quelques migraines, en tout cas au départ, puisqu'on s'y fait. Et parce que ce sont des gens qui connaissent très très bien le système financier et qui, d'ailleurs, paradoxalement, malgré que le Financial Times soit, comme vous savez, le journal de la City, peut avoir des points de vue extrêmement critiques et pertinents et intéressants à lire, mais on ne partage pas forcément tout. Donc, ils ont lancé parmi les lecteurs de ce blog Alphaville, comme le film de Godard, un galop, une enquête, ce qui était comment pourrait-on appeler la crise aujourd'hui. Alors, donc, tout le monde y a été de sa proposition, et finalement, ce qui a été retenu, c'est le domaine, la grande perdition. C'est pour ça que je me suis permis cet emprunt à ce journal Les Passions de Comment. Deuxièmement, la grande perdition, il faut bien savoir ce que ça veut dire. On le voit tout de suite. De quoi parle-t-on en perdition? De la vie, elle va sombrer. Donc ça donne bien l'idée de quelque chose qui est en train de vivre une phase que l'on a du mal à dire qu'elle est ultime. Je ne l'attendais jamais des fois. Mais qu'on peut peut-être tourner le sujet en disant aujourd'hui, c'est une implosion. Implosion, ça veut dire quelque chose de précis. Ça veut dire ça explose de l'intérieur. Ça veut dire, donc, quelque part, le système de par ses propres contradictions est soumis à des tensions, à une déstabilisation extrêmement puissante et forte, puisque, on l'observe, les théoriciens, les historiens, plus tard, se mettront d'accord en fonction de l'analyse qu'ils feront de ce que nous sommes en train de vivre. Et nous, comme on l'a ajouté sur l'événement, c'est évidemment plus compliqué, on est dans le vent, en quelque sorte. Mais quand est-ce que ça a commencé? Pour quelle raison? Un certain nombre d'explications existent, et sont intéressantes à connaître. Mais quoi qu'il en soit, depuis que ça a commencé, on va dire depuis 3 ans, en général, et bien ça n'a pas arrêté. Est-ce qu'on a appelé à l'époque, de manière pas correcte finalement, la crise des subprimes? Vous savez, c'était les crédits immobiliers pourris destinés aux gens qui n'avaient pas d'argent pour arrêter payer leur crédit et qui ensuite. C'est leur maison, ça se passe aux États-Unis à très grande échelle, que cette crise des subprimes, c'était elle-même, cet événement lui-même, n'était que finalement une illustration de quelque chose de beaucoup plus fondamental, je vais essayer bien sûr d'y venir. Alors, je suis là au titre de quelqu'un qui écrit la chronique de cette crise depuis maintenant 3 ans. C'est-à-dire, j'ai écrit, je ne sais pas le chiffre, quelque chose comme 500 ou 600 articles, j'en ai écrit donc 13 bon. Et une chronique, c'est une chronique, c'est-à-dire je m'attache à suivre les développements d'actualité. Et j'essaie, bien sûr, dans la mesure de mes moyens, de les rendre le plus intelligibles possible. Je donne mon interprétation et leur retrouve. Deuxièmement, cet exercice-là, j'en recommande à tout le monde, sans même me mettre sur quelqu'un écrit, parce que c'est extraordinairement formateur. C'est-à-dire, on peut avoir, et nous avons tous et toutes, des idées générales sur le néolibéralisme. analyse sur le capitalisme, etc., qui est très important, mais commencer à entrer dans le détail de la bête, en quelque sorte, dans le mécanisme, dans le fonctionnement de tout ça, dans quels sont les acteurs. Voyons, il y a des mots magiques, on parle des hedge funds, ok, qu'est-ce que c'est, combien il y en a, comment ça se passe, où est-ce qu'ils sont probablement. Les mécanismes, les acteurs, je disais, et aussi bien sûr les produits financiers. Des tabous savants nous sont balancés et que nous avons du mal bien sûr à décrypter. Maintenant, on parle de produits structurés, des CDS, et plein d'autres encore. Et tout ça, c'est un monde qui nous est présenté d'abord comme étant très complexe et donc on ne peut pas comprendre, bien évidemment. Et deuxièmement, qui est un monde qui est encore un monde extrêmement obscur, car en réalité, une partie de ce monde-là dans lequel nous sommes et qui est en train, selon moi, d'imposer, pas selon moi seulement, ce monde-là, il est, comment dirais-je, il a des composantes qu'il faut connaître pour essayer de voir ce qu'on va pouvoir en réalité, et surtout, je crois que c'est Vladimir Ilitch qui avait dit, on te donne un fusil, apprends à t'en servir. Donc, pour arrêter, quand on veut combattre le capitalisme, il faut le connaître. Et donc, je suggère à tout le monde de faire très honnêtement ce que j'ai fait, moi, car je ne suis pas un économiste. Enfin, j'ai fait de l'économie comme tout le monde à l'université, mais je ne suis pas un économiste professionnellement. Simplement, j'ai énormément appris et j'ai le sentiment, si vous voulez, qu'un monde nouveau s'ouvrait. D'ailleurs, les Américains, de manière un peu innocente, ont employé un mot extraordinaire, une expression extraordinaire. Ils parlent de shadow banking, la banque de l'ombre. Formidable, ça. Alors, eux, ils ne prennent pas de manière dont vous pouvez, vous et moi, le prendre aujourd'hui, comme quelque chose de mystérieux et surtout conspirateur. Eux, ils le prennent comme tout simplement, ça veut dire le secteur qui n'est pas régulé de la finance, par opposition aux banques qui le sont, enfin, mal d'ailleurs, mais qui le sont officiellement. Donc ce shadow banking que nous connaissons, nous, au travers d'un certain nombre comme ça, d'incursions, d'excursions, on parle des paradis fiscaux, pas ce qu'on appelle, le CDE appelle les organismes non coopératifs, c'est terre officielle. Eh bien, c'est tout ce monde-là, si vous voulez, a pris, je prends la suite de l'exposé, s'est gonflé d'une manière extraordinaire, le monde de la finance qui représente le monde financier aujourd'hui. Après un décollage qui, effectivement, date des années 80, est aujourd'hui quelque chose qui dépasse même l'imagination. Quand on parle, par exemple, en notionnel, c'est-à-dire des produits qui sont opposés les uns aux autres, le volume de ces paris contradictoires dépasse de plusieurs fois le PIB de la planète. Alors, c'est du notionnel, j'entends bien. Ça veut dire, si vous voulez, des paris s'annulent entre eux, à un moment donné, et puis ce qui leur reste, petite partie de ces chiffres absolument bibliques. Mais ça montre que ce qu'on appelait, vous savez, dans notre langage imagé, les capitaux flottants, là. Alors, c'est devenu des marées flottantes, c'est un monde financier gigantesque. Et quand on voit, par exemple, ce qui s'échange tous les jours sur le marché monétaire international, le Forex, les milliers de milliards qui s'échangent tous les jours, on a une idée de ce monde qui est simplement une idée, parce qu'on apprend à parler en milliers de milliards. Personnellement, je n'étais pas habitué. En trillions, vous voyez. Bon. Ce n'est pas une moyenne de monnaie que j'avais l'habitude de sortir de ma poche. Sauf que dans le milieu financier, c'est saluté. C'est milliards et milliers de milliards. Donc ça donne, ce sont des images, hein. C'est pas l'analyse. Donc j'ai fait cette chronique, je pense, bien sûr, et surtout j'ai appris beaucoup de choses que je vais essayer de faire partager. Premièrement, je voudrais commencer par qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait au courant, et qu'est-ce qui va probablement se passer lundi. Parce que quand on fait une chronique, c'est comme ça qu'on procède. Il y a une décision qui devait être donnée hier et qui n'a pas été donnée, c'est pas par hasard qu'on dit. Cette décision devait être donnée par l'autorité européenne des banques, l'EBA, dans l'anglais. Ça consistait à dire, nous avons dit qu'il fallait que les banques européennes, les 70 principales banques européennes augmentent leurs fonds propres d'ici juillet 2012, par un peu plus de 6 mois, à hauteur de 106 milliards d'euros, on est dans les milliards, mais 106 quand même, eh bien, nous allons réviser notre analyse et nous allons augmenter ces besoins de renforcement des fonds propres pour que les banques tiennent le coup face au choc qu'elles pourraient subir. Cette information qui est capitale n'a pas été donnée pour faire ensemble, c'est qu'il commence jeudi un sommet des chefs d'État et de gouvernement européens, et que il est évident que ça ne va pas être une bonne nouvelle qui va être donnée, nous préférons qu'elle soit annoncée après. C'est une mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce que quand on regarde dans le détail la crise aujourd'hui, on parle tous de la crise de la dette publique. Je sais qu'elle existe incontestablement, mais il y a un taux de passe-passe extraordinaire, un escamotage, qui fait qu'est oublié la crise de la dette privée. La dette privée, c'est en particulier les banques, évidemment. C'est-à-dire que quelque part, on a fait un tour de prestigitation et on ne parle plus que d'un aspect d'un phénomène plus général. Parce que si je donne un seul exemple, ce pays qui est si proche de nous, de Toulouse, qui est l'Espagne, le principal problème, ce n'est pas du tout la dette publique, c'est la dette privée. C'est qu'en Espagne, il y a une bulle immobilière, Maus Costum, et que les banques espagnoles les plus grandes d'entre elles, pas seulement les caisses d'épargne, c'est-à-dire HSBC, Santander et tout ça, toutes ces banques ont des tonnes d'actifs pourris dans leur bilan, qui, bien sûr, pour l'instant, ils sont assis dessus et ils les masquent comme ils peuvent. Mais les taux de défaut sur les crédits qui sont accordés, soit aux particuliers, soit surtout aux promoteurs immobiliers et aux BTP, sont tels que, bien sûr, tout ça, il va falloir renforcer beaucoup, beaucoup les banques, car elles sont d'ailleurs en perte. D'ailleurs, des analystes financiers très pointus, mais à la fois, on dirait, très honorables, il faut dire, pas comme moi, parlent des banques zombies. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire des banques qui ont l'air d'être vivantes, mais qui ne sont plus. Première nouvelle, c'est une question qui était importante et qui s'inscrit dans le contexte d'un besoin énorme de recapitalisation des banques. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail des difficultés qu'elles rencontrent. Pourquoi cette nouvelle-là a été pour l'instant tournée. Deuxième nouvelle, on entend parler de montages qui sont, pardonnez-moi, le mot tartignol, sur comment on va régler le problème de la crise de la dette publique européenne. Alors, je vous passe tous les épisodes précédents. Vous savez qu'ils sont le long fonds européen de stabilité, puis on a dit qu'on allait faire comme ça, puis qu'on allait arriver à 20 000 milliards, ben on ne l'a pas, et qu'on allait faire autrement, et qu'on ne savait plus très bien comment, et qu'on allait demander au FMI, et le FMI, bizarrement, ça paraît bizarre, mais le FMI, il a comme disponibilité, au jour d'aujourd'hui, quelque chose comme 350 milliards de dollars, c'est-à-dire moins d'euros. Donc, quelque part, les moyens même du FMI ne sont pas à la mesure des besoins financiers que l'Europe exprime aujourd'hui pour régler son problème. Et il faut renforcer le FMI. Alors voilà le montage qui est prévu aujourd'hui. La Banque Centrale Européenne, messieurs, va financer le FMI pour que le FMI finance la dette européenne et les banques européennes. Tout ça pour, bien entendu, éviter que la BCE finance directement les États, ce qui, comme tout le monde sait maintenant, en long, en large et en travers, est interdit par un traité qui a été signé au moment de la création de l'euro. Donc, il y a là, si vous voulez, un problème grandissant, majeur, qui n'est plus seulement le problème de la dette publique, qui est le problème de la montée en puissance d'une nouvelle crise d'un système bancaire, qui est due, d'une part, au fait qu'elle n'arrive pas à attirer les investisseurs pour se recapitaliser comme elle voudrait. Donc, ils utilisent toute une série d'astuces, je ne sais pas si l'État, je peux vous les fournir. Et mais deuxièmement aussi, elles n'ont plus du tout confiance réciproquement les unes envers les autres, et donc elles ont une double crise, une crise de liquidité, c'est-à-dire que, vous savez, une banque, ça passe son temps à emprunter de l'argent à court terme pour financer des crédits à long terme, donc sans arrêt, ça a besoin d'argent pour se refinancer. Eh bien, les banques ont énormément de mal à se refinancer, et c'est la BCE qui fait office. C'est-à-dire que le système bancaire ne fonctionne plus. Le marché bancaire, il est à zéro, il est plat, pas tout à fait, mais presque. Donc, deuxièmement, ils ont une crise de solvabilité. Ça a toujours été nié par les banques. Et ils disent, oui, nous avons des petites difficultés passagères, mais en réalité, au fond, c'est que nous sommes saines. Oui, ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'elles utilisent. Je vais vous donner quand même un exemple, parce que c'est quand même magnifique. Qu'est-ce qui permet de dire qu'elles sont saines? C'est que c'est un ratio qu'il y a entre les capitaux propres et les engagements financiers. Mais alors, il y a une petite astuce au passage. C'est comment sont calculés les engagements financiers? Ce n'est pas les engagements bruts, c'est les engagements pondérés par un coefficient de risque. Ça peut se comprendre. Petit détail intéressant supplémentaire, qui est-ce qui décide du coefficient de risque? Les banques. C'est les banques qui définissent le modèle mathématique qui permet de dire tel actif, ben le coefficient, je ne suis pas remboursé, le risque, il est de tant de pourcents, tant, etc. Et en fonction de ça, je pondère et je calcule mon gros ratio. Sauf que, bien entendu, qu'est-ce qu'a montré la crise tout à fait au début? C'est que tous les calculs de risque qui avaient été faits sur le crédit immobilier, aujourd'hui, l'autre que j'ai écrit, c'était son job, son métier, il a écrit un livre là-dessus. Tous ces calculs-là étaient faux. Les modèles mathématiques étaient très impressionnants pour les gens, bien sûr, qui n'osent pas toucher à l'équation, mais dans la pratique, ne voulaient rien dire. La preuve, ça s'est écoulé. Deuxième chose qui s'est passée, bon, c'est ce mandat de la même PFU. Alors, il est en train d'essayer d'être fait. Et s'ils y arrivent, ils vont essayer de refinancer les États comme ils refinancent les banques. C'est des méthodes de banquier, c'est la même chose. Quand on ne sait pas rembourser une dette, eh ben, on la prolonge. Vont-ils y arriver? Ce n'est absolument pas garanti. Il y a énormément de contradictions. Et une des contradictions majeures, c'est que les Américains qui sont, les premiers contributeurs du FMI, et qui ont la minorité de blocage au sein du FMI, ne veulent pas la perdre pour des raisons techniques à la manière dont le FMI est financé. Si les pays émergents, par exemple, amenaient de l'argent de le FMI, qui permettrait que le FMI puisse aider l'Europe, ça aboutirait à une augmentation de ce qu'on appelle leur code barre, et ça aboutirait à ce que les Américains perdent leur minorité de blocage dans le FMI. Et pourquoi ne le dit pas? Parce que, bien sûr, ils ne veulent pas de réforme du système monétaire international, qui, bien sûr, aboutirait à inscrire dans les faits ce qui commence déjà à l'être d'ailleurs, qui est la perte de ce statut privilégié du dollar, qui est que c'est une monnaie de réserve et que ça leur permet de financer leur déficit, évidemment beaucoup plus simplement. Donc vous voyez que les choses sont extrêmement liées, extrêmement complexes, il y a énormément de conflits d'intérêts à l'intérieur même du système, ce qui explique que ce n'est pas parce que c'est des incapables qui ne trouvent pas de solution. C'est tout simplement qu'ils sont confrontés à des contradictions d'intérêts très importantes. Et bien sûr, ce n'est pas le mérite de la géopolitique en opposant les Allemands aux Français, aux Américains, aux Chinois qui permettent de comprendre ça. C'est tout simplement les pays intéressés des peuples entre eux. C'est tout simplement des contradictions d'intérêts économiques et financiers profonds. Troisième chose qui a été annoncée également hier, c'est que le sommet des chefs d'État européens et des chefs de gouvernement qui commencera jeudi, eh bien, il n'est pas du cours de jour, mais on dit oh, il va peut-être durer 4 jours. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'ils arrivent à trouver une solution sur la question qu'on appelle du nouveau traité européen. C'est ce qu'on appelle l'union budgétaire. Enfin, c'est ce qu'appelle Angela Merkel, l'union budgétaire. Et il y a des contradictions d'intérêt totales, divergences, de ce point de vue, entre les Français, les gouvernements français, les gouvernements allemands, donc il n'est pas une question qu'ils y arrivent. Donc on s'aperçoit que c'est de tout l'édifice qui est extrêmement fragile. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que si le gouvernement italien ne parvient pas à calmer le jeu du point sur le marché financier qui permet de refinancer sa dette, eh bien la zone euro éclate, et avec la zone euro éclate, c'est un véritable cataclysme au niveau financier international, et bien sûr au niveau européen, c'est pas un bon compte. C'est ce qu'il faut au niveau euro, c'est une concertation sur les conséquences. Donc, si vous voulez, tout ça amène à se dire, à élargir le propos, parce que là, je raconte des petites choses de tous les jours qui s'en passent. Mais chaque chose est intéressante à décrypter parce qu'elle permet de comprendre le pourquoi du comment, en quelque sorte. Finalement, on pourrait dire que le système tel que mon prédécesseur l'a décrypté avec pertinence, c'est aussi beaucoup une machine à faire de la dette. Le capitalisme financier est une machine à fabriquer de la dette. Et il a expliqué très bien pourquoi. C'est-à-dire, en gros, à force de distribuer la richesse de manière extrêmement inégalitaire et de faire bénéficier des résultats d'augmentation de la productivité seulement ce qu'on appelle les rentiers, ce n'est pas les petits rentiers, c'est les grands, c'est-à-dire les gros investisseurs, les financiers, eh bien, évidemment, on crée un très grand déséquilibre, c'est-à-dire que les particuliers ont besoin de s'endetter tant que c'est possible pour maintenir leur niveau de vie, les entreprises qui sont sous-capitalisées également, et les États de même, parce qu'au fur et à mesure que l'on diminue les impôts et les taux d'imposition États, ce qui a été le cas de manière très forte, en particulier aux États-Unis sous l'administration Clinton. Et depuis, eh bien, il est évident que les États ont des besoins d'endettement de plus en plus importants. Donc finalement, le système a fabriqué en quelque sorte sa propre existence, qui s'est rendue indispensable, nécessaire, en disant « moi, c'est le financier, ça comme ça pour envoyer des termes neutres, je vais vous inventer votre affaire, vous avez besoin d'argent, je vais vous en donner ». Mais c'est le système lui-même qui a créé le besoin. Donc c'est vraiment une machine à fabriquer de la dette. Et alors, c'est dans tous les domaines, dans tous les compartiments, c'est bien sûr au niveau des États, vous l'avez vu. Parce qu'au bout du compte, si on prend aujourd'hui la dette des États européens, pour ne pas parler du pays le plus endetté au monde, le pays le plus endetté au monde, c'est le Japon. Hein. C'est 200% du PIB, leur dette publique. Les États-Unis, c'est un peu moins de 100%, mais ils y vont très vite. Mais, grosso modo, si on prend ce critère-là, qui n'a pas grand sens en réalité, qui est le rapport entre la dette publique et puis le PIB d'un pays, on s'aperçoit quoi ? Tout ça n'a rien d'extrêmement alarmant en soi. Pourquoi c'est devenu d'un seul coup alarmant ? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi a-t-il été décidé qu'il fallait rembourser très très vite la dette publique, au prétexte en Europe, bien sûr, de respecter les critères de Maastricht, c'est-à-dire, vous vous souvenez, 60% de dette publique maximum, 3% maximum de déficit. Ces critères, qui d'ailleurs avaient été bafoués au premier lieu par qui ? Les Allemands. Et par qui ensuite ? Les Français. Ce n'est pas les Grecs. Donc, quelque part, il est apparu qu'il était devenu indispensable de respecter quelque chose qui auparavant ne l'était pas. Mystère, mystère. Alors, il y a une raison à ça qui est très simple. C'est qu'en réalité, il y a un marché obligataire mondial. Que ce soit les entreprises, les États, tout le monde, et parmi les entreprises, il y a les banques, c'est-à-dire les établissements financiers. Tout ça va pêcher sur le même marché où tout le monde est en concurrence les uns avec les autres pour avoir de l'argent au meilleur taux de la paire. Tout ça va pêcher sur le même marché. Et on arrivait à une situation qui était très clairement définie, où il y avait d'un côté les besoins des États qui augmentaient, et les besoins aussi des banques qui augmentaient. Et en gros, l'explication est simpliste, mais malheureusement, elle est vraie. Les banques ont demandé la place. Les entreprises voulaient passer en premier. Et pour passer en premier, ben, il fallait que les États remboursent, commencent à rembourser leurs dettes pour que les investisseurs aient plus de capacité de financement de l'établissement financier eux-mêmes. Voilà un petit peu pourquoi ben, ça aurait dû être en quelque sorte. Donc quand on prend l'ensemble du fonctionnement de cette machine à fabriquer la dette, on s'aperçoit qu'elle est cassée. Ça, c'est le véritable problème qu'ils ont actuellement. Le système est déstabilisé totalement, ne retrouve pas son équilibre. Et ça, c'est quelque chose auquel ils ont cru qu'ils allaient pouvoir parvenir avec un mécanisme qui était très simple. Je vais parler que de l'Europe, mais c'est aussi valable dans un contexte différent aux États-Unis ou au Japon, donc à tout le monde occidental. La manière qu'ils avaient de considérer les choses, c'était de dire, finalement, il y a eu un transfert financier entre les établissements financiers et les États, et il s'est fait de deux manières. D'une part, parce que les États ont donner de l'argent aux banques pour les renflouer, mais des fois, effectivement, il a été remboursé, c'est le cas d'ailleurs en France, c'est vrai. Mais surtout parce que les États ont dû mettre beaucoup d'argent sur le tapis en raison de la crise économique, donc ils ont décidé de combattre. Et donc le coût de la crise financière a été extrêmement lourd pour les États, même si ça n'a pas été directement dans les coffres des banques. Donc quelque part, ça revient à dire qu'il y a eu un transfert. Ce transfert étant fait, eh bien, ma foi, les États n'arrivaient pas à digérer, en quelque sorte, ce qu'elles avaient accepté de prendre à leur compte comme dette. Donc, c'est un jeu de la patate chaude. Ils passent leur temps à essayer, entre les banques et les États, pour simplifier, à se refiler. Il n'y a pas de coup la dette, parce qu'ils n'arrivent pas à la rembourser. Et on en est là. Mais ils masquent soigneusement l'aspect des banques, parce que bien sûr, ça, déjà, ils sont soupçonnés des pires délits, mais si en plus on racontait toute l'histoire, politiquement, ça risquerait bien sûr de poser des problèmes supplémentaires à ce qui déjà existe en fait. Moi, je suis venu en descendant de l'aéroport à Toulouse, je parlais avec des gens, des banques, d'abord quand vous parlez avec États, on va vers le transfert vers les États, et puis les banques, on ne va pas faire trop de régulation financière, qui n'en ont pratiquement pas fait, quand on regarde un détail, beaucoup de monde, très très peu d'actes. Et on va laisser les banques refaire, avec leur business habituel, qu'on ne va pas leur empêcher de faire, refaire de l'argent, en quelque sorte, pour petit à petit se tirer par elles-mêmes d'affaires. C'est ça qui a été fait. Sauf que, comme je viens de le dire, ce qu'on démontrait, mais pourquoi ça va vite, aller vite, les banques n'arrivent pas à se refaire toutes seules comme elles pensaient elles-mêmes en être en mesure de le faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la crise de la dette publique est venue complètement les déstabiliser. Pourquoi ? Parce que les banques européennes ont acheté énormément de dette publique. Pour une raison simple, pas pour faire plaisir aux États, parce que c'était un pilier financier pour elles-mêmes, c'est-à-dire que la dette publique était considérée comme un zéro risque. C'est ce qui était dit par les financiers. Or, la dette publique n'est plus à zéro risque. À partir de ce moment-là, elles doivent dévaloriser, déprécier de leur compte la dette publique et leur compte se retrouve de nouveau déséquilibré. Voilà un petit peu comment les choses s'enchaînent les unes avec les autres et qui permettent de comprendre que la crise se poursuit et aujourd'hui n'a pas de solution. Alors évidemment, ils disent sur tous les tons qu'ils ont une stratégie et nous la connaissez. C'est bien sûr l'austérité, la rigueur, etc. Et ça ne compte pas les plans qui se multiplient, et y compris d'ailleurs des plans de privatisation tactique de l'État, c'est le cas en Grèce, bien sûr, c'est aussi le cas en Espagne, et ça va être prochainement le cas en Italie. Simplement, ce que montrent ces derniers mois, que ce soit en Irlande, en Portugal, en Grèce, comme vous l'avez vu, comme on le voit, c'est que les États qui sont mis dans des situations, les pays qui sont mis dans des situations de plus en plus difficiles, parce que tout simplement, ils entrent dans la récession économique les uns après les autres, ne sont pas en mesure de rembourser, comme il était escompté, malgré les plans d'austérité, les dettes, et qu'au contraire, les dettes continuent d'augmenter, ce qui est exactement contraire à l'objectif recherché. Donc il y a là aussi une contradiction, on dirait, la stratégie, le plan A, qu'ils essaient d'appliquer ne fonctionnent pas et ils n'ont pas de plan B. C'est pour ça qu'ils essaient de trouver des solutions qui sont des pis-allées, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir le FMI et la BCE qui remettraient de l'argent, ça s'appelle la création monétaire, créerait ex nihilo de l'argent pour essayer de stabiliser financièrement l'ensemble du système. Mais par contre, ils vont faire beaucoup de dégâts. Parce que tous les chiffres montrent, et tous les chiffres de tous les ayant pignon sur rue, que les inégalités sociales se poursuivent de manière, se développent de manière très forte, y compris depuis le début de la crise, ça continue. Je ne parle pas seulement, bien sûr, du taux de chômage et des choses qui sont fondamentales. Et il y a même un autre phénomène dont on parle beaucoup moins, mais qui est en réalité aussi important, parce que quand on parle du développement des inégalités, on voit bien ce que ça veut dire, on sait, c'est des poches de détresse et de misère à côté, mais c'est aussi une espèce d'érodement des classes sociales dites moyennes, en tout cas par le bas, qui voient leur statut se détériorer, leur capacité, leur niveau de vie également diminuer, au fur et à mesure que, à ma foi, leur revenu baisse en raison de l'ensemble des mesures qui sont prises. Moi, j'ai la reprise du Portugal, c'est complètement effrayant. Quand vous additionnez tout ce qu'ils doivent subir, ça fait des pertes de salaire ou de revenus pour les gens qui sont très importants. L'autre aspect, c'est le développement de l'informalité. Donc, je ne vais pas en parler longtemps parce que je n'ai pas le temps. C'est quoi l'informalité ? Alors, c'est aussi un phénomène très important. J'ai vécu au Brésil. Au Brésil, l'informalité, ça se manifeste par le fait que vous avez à peu près, ça va être moins maintenant, 50% des gens qui travaillent, qui n'ont pas de contrat de travail, qui n'ont pas de couverture sociale, sauf le système de médecine pour tout ce qui est sous Brésil, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Ce sont des gens qui vivent en dehors de l'État, du système du pays, tel qu'il a un État, tel qu'il y a un certain nombre de filets de protection sociale, etc. Ils n'ont pas un droit à tout ça. C'est au Brésil, 80% des CD, des TD sont pirates, etc., etc. Il y a une activité informelle, c'est-à-dire de petites entreprises, de gens qui ne paient pas la TVA, etc., etc., qui est très importante. Et c'est pour ça et c'est en train de se développer avec Escorbet, en Espagne, en Italie, en Grèce. C'est-à-dire, c'est finalement des réflexes de survie. C'est, on se débrouille comme on peut. On est au chômage, on bénéficie de la solidarité familiale, etc. On la retrouve un peu quand elle avait disparu, mais au bout du compte, c'est le royaume des petits boulots, de la déverte et des trucs tombés du camion. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça, c'est une informalité, mais celle du bas, parce qu'il y a celle du haut aussi. Il y a celle des très riches qui aussi s'abstrait. Et alors, ça donne des chiffres, pour vous en donner un, je ne sais pas par cœur, pardon, extraordinaires, qui sont des chiffres provinciaux espagnols. Ce qui est estimé en Espagne comme évasion fiscale et activité. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Donc, c'est la Fondation des caisses d'Espagne espagnole, la FUNCASA, qui chiffrait le travail noir en Espagne à 17% du PIB, c'est-à-dire représentant 4 millions d'emplois. C'est pas mal. Et une étude qui est faite par une société qui s'appelle Visa Europe, qui estimait que l'économie souterraine espagnole en 2009 représentait 20% du PIB, et que c'était plus que le Portugal, en Grèce et en Italie, où c'est également très développé. C'est-à-dire que quand on raisonne en termes de chiffres et qu'on raisonne en termes d'économie, on doit prendre en compte qu'il y a une grande partie de l'économie qui est pour une part une économie de survie et d'autre part une économie d'évasion fiscale derrière, qui n'est pas comptabilisée dans les chiffres sur lesquels on travaille, sur lesquels on recherche. Or, ce phénomène est important parce que ce n'est pas un problème de comptabilisation, mais des chiffres. C'est tout simplement que ça a une incidence très importante sur la manière dont la société existe et dont les gens vivent. Alors, je vais terminer parce que je crois que j'abuse. Ça va. On voit les promesses que peut faire aujourd'hui un système qui est en crise. Moi, je ne connais pas la fin du film. Je suis incapable, bien sûr, de dire il va quand même se rétablir sur ses pieds ou pas. Je ne sais pas. Des arguments ont été donnés. Il avait tout à fait raison, tout à l'heure de retire. Oui, mais il y a un réservoir, c'est les pays émergents. Hein, les pays émergents, donc les marges d'affaires des pays émergents, sont ressentis par les grandes entreprises internationales comme un Eldorado en puissance. Et d'ailleurs, ils sont en train de financiariser ces pays à très grande vitesse. Qui n'a pas son compte bancaire en Chine ? On est en train de multiplier, ces approches-là pour essayer de faire dans ces pays, pas seulement la Chine, au Brésil aussi bien sûr, de reproduire ce qui a été des instruments du profit du système financier dans les pays occidentaux. Au Brésil, par exemple, c'est extraordinaire. Les classes petites moyennes qui sont pas, faut bien voir, c'est le même mot, mais ça n'a pas la même réalité en termes de revenus que ce que nous connaissons en Europe. Hein. Ces classes moyennes vivent sur un endettement qui est majeur. Et en plus, c'est du crédit revolving, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts très élevés là-dessus. Donc, on s'aperçoit qu'ils essaient d'en produire avec les recettes qui sont les leurs, les mêmes mécanismes dans d'autres territoires, ayant un peu épuisé ce qu'ils sont en train de quitter, mais où ils n'ont plus faire les affaires déposées, c'est-à-dire les noms. Donc, ça leur donne une certaine marge de manœuvre incontestablement. Mais je crois que le deuxième, et ça va avoir la conclusion, le deuxième grand facteur qui dit on ne peut pas dire ce qui va se passer encore, d'abord, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Vous en parliez, nous en parlions ce matin, en parlant de la révolution russe, on en parle pas de la révolution chinoise, ou de plein d'autres grands phénomènes majeurs que nous avons connus et qui ont abouti à ce qu'ils ont abouti par ailleurs. Mais ils ont présenté, comme chacun sait, une alternative, un grand espoir pour énormément de gens. Pendant une longue période historique. Même ceux qui étaient critiques, et il y en avait beaucoup, heureusement, sur le tard, ne pouvaient s'empêcher de considérer que ce n'était pas tout à fait la même chose, etc. Aujourd'hui, ça tout ça a disparu. Donc, l'alternative, il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas, c'est un peu le pari, c'est-à-dire c'est le rêve de ce qu'on appelle le TINA en anglais, vous savez, There is no alternative. Il n'y a pas d'autre issue que d'oublier et d'accepter finalement les solutions qui sont proposées par un système qui essaie de tomber sur ses pieds, d'une manière qui est très nombreuse, parce que tu sais, dans l'état actuel des choses, elle ne peut pas réussir. Donc je crois que le vrai problème, c'est de se dire aujourd'hui, c'est pas la peine d'employer des grands mots, non pas que ils ne sont pas forcément indésirables, mais il faut leur donner des contenus. C'est quoi une société alternative aujourd'hui? Et il faut que ça puisse parler de manière suffisamment précise. Et bien, si on est sur anticapitaliste, c'est bien, mais bon, ça ne dit pas ce sera la société de demain. Si on est sur le socialisme, ça renvoie à l'URSS dans la tête de beaucoup de gens, c'est plutôt un repoussoir qu'autre chose. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, quelque part, on se dit, mais c'est quoi cette société? Et on se demande, même, parce que vous savez, dans l'histoire des révolutions, il y a à la fois des ruptures très fortes, mais il y a aussi quelque part, il y avait des fois, souvent, dans les sociétés, déjà des signes prémonitoires, des petites préfigurations de ce qui pouvait ensuite se passer. Des fois, ça n'aboutissait pas, des fois, ça aboutissait. Donc on peut se demander, mais dans notre société aujourd'hui, quelles sont celles que nous les connaissons et là où nous vivons, est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses qui sont des illustrations marginales, partielles des phénomènes qui montrent que d'autres, les sociétés pourraient fonctionner sur des modes qui, au jour d'aujourd'hui, doivent penser de manière radicalement différente la société dans laquelle nous vivons. Parce que là-dessus, je crois qu'on en sera tout d'accord facilement. Réaménager le capitalisme aujourd'hui, je crois que c'est plus possible. Ça, c'est le problème, d'ailleurs, de ceux qui veulent le faire, c'est-à-dire des partis sociaux-démocrates. On ne peut pas dire on va tout effacer ce qui s'est passé, on ne peut pas dire on va arranger un certain nombre de choses, réguler le capitalisme, d'ailleurs, il parle même pas, et puis ça va partir probablement. Je crois que la machine est cassée. Quoi qu'il se passe, ça ne sera pas comme avant. Ça peut être pire, ça peut être mieux. C'est quoi donc cette alternative? Ben, moi, je crois que c'est le vrai problème devant lequel on est tous. Parce que tant qu'il n'existera pas de manière suffisamment tangible dans l'esprit de beaucoup de gens, il sera extrêmement difficile de les mobiliser et on aboutira à des phénomènes qui sont très importants symboliquement. Les Indignés en Espagne, en Grèce, les 99% aux États-Unis. On aboutira à des révoltes. On aboutira à des grandes grèves générales, mais la question est bien sûr d'aller au-delà. Or, comme nous ne sommes plus forcément tous, nous sommes des partisans de la théorie du grand soir, c'est-à-dire qu'on pense que d'un seul coup, boum, crac, formidable, ça sera fait. On sait que c'est un processus, on en parlait ce matin, hein, les masses, le parti, qu'est-ce qui dirige, comment ça se passe. On s'interroge beaucoup sur cette question-là, à très juste titre. On doit le dire, intervient dans cette discussion. Finalement, mais pourquoi on y va? C'est-à-dire, on peut dire contre quoi on est, c'est bien important. Mais la question suivante, c'est de dire quels sont les contours. Par exemple, il y a une période, on a beaucoup parlé d'autogestion. Hein, et libre, etc. C'était après 1968. Il y avait des gens qui étaient pour, qui étaient contre, ouais. Il y a un débat. Mais aujourd'hui, on n'emploie plus le terme. Mais peut-être que l'idée, elle aussi, de dire on n'est pas seulement pour prendre l'État, mais on est pour le faire dépérir, comme disait Marx, ça a un certain sens. Comment ? C'est fini.
Merci beaucoup, François.